Le titre de la table ronde, le titre original était Le document à l'ère du numérique. Peut-être qu'on pourrait l'appeler, si ça marche bien, la réapparition du livre, puisque vous voyez que le livre de Henri-Jean Martin existe déjà sous format numérique et en texte intégral, mais il n'existe pas en France, puisqu'en France, ça serait complètement interdit au niveau du copyright. Il existe au Canada, d'où je viens, puisque selon la date qui est inscrite ici, c'est 1957. J'ai vu que vous aviez mis 1958, mais 50 ans après au Canada, après l'édition du livre et non pas après la mort de l'auteur, le livre tombe dans le domaine public. Donc, on peut mettre ce livre sur l'Internet. Donc, nous sommes, si on pourrait dire, dans la réapparition du livre ou dans l'apparition du livre. On pourrait prendre cet autre titre pour la table ronde. Et je vous en proposais un troisième qui sera peut-être le titre définitif. On a parlé ce matin de la dématérialisation en disant que c'était vraiment un mot compliqué à prononcer. Je vous en donnais un pire qui sera celui de la table ronde. C'est la redocumentarisation. Et l'objet de cette table ronde, c'est bien de parler d'une redocumentarisation. Et ce que vous avez sous les yeux en ce moment, c'est la redocumentarisation d'un livre qui existait déjà. Donc, c'est de cela que l'on va parler pendant cette table ronde avec donc deux collègues. Donc, je vais vous présenter en deux mots Alain Pierrot, qui est de la société I2S, qui est une société spécialisée dans la numérisation des livres, c'est-à-dire des livres traditionnels que l'on bascule du côté du numérique et qui a une longue expérience dans différents domaines du passage du livre au numérique. Et il nous en fera part, en tout cas, il nous fera part de ses réflexions autour de ces questions. Et puis, Yannick Ménien, que sans doute un certain nombre de gens connaissent déjà parce qu'il est déjà passé par le monde des bibliothèques, mais là, ce n'est pas à ce titre-là qu'il est ici, c'est au titre de directeur du très grand équipement Adonis. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas trop le sigle, mais là tu nous le diras. C'est en fait une plateforme numérique dédiée aux sciences humaines et sociales. Et donc évidemment, là aussi, on sera dans le sujet. Ce n'est plus la redocumentarisation du livre, mais c'est la redocumentarisation de la science qui non seulement passe par des documents renouvelés, mais se transforme au travers du renouvellement de ces documents. Donc, c'est cela que l'on va essayer de développer au cours donc de cette table ronde. Chacun aura 10 minutes, on va essayer de tenir le temps. J'ai repris quelques idées d'Alain Marshall que j'ai interprétées. Alors, comme il est là, il pourra les contredire ou les corriger si j'ai fait des erreurs. Ce n'est pas exactement ce qu'il a écrit, c'est ma lecture de ce qu'il a écrit. Et puis, vous avez vu que je me suis bien gardé de mettre des dates, parce que devant des historiens, j'aurais quelques hontes. Mais pour dire qu'on est passé peut-être successivement d'un ordre des livres, puis au 19e siècle, grosso modo, le journal devient dominant, même si le livre reste, hein, bien sûr, mais par rapport à l'évolution à la fois de la lecture et de l'imprimerie, c'est le journal qui devient dominant. Ensuite, j'ai repris le mot là de Alan Marshall, c'est pas moi qui ai dit la paperasse, mais il est clair que il y a au travers aussi là, de la transformation des imprimeries, mais pas que de la transformation des imprimeries, au travers d'une transformation de l'économie, au travers de transformations des États, un développement considérable de documents, hein, et donc c'est ce qu'on peut appeler, si on veut, la paperasse. C'est aussi entre le journal et la paperasse, le moment où on le reverra de la première documentarisation, c'est-à-dire en réalité la première utilisation industrielle de la classification du fait de retrouver des documents. Aujourd'hui, on va appeler ça des métadonnées, mais à l'époque, évidemment, il ne s'agissait pas de métadonnées, il s'agissait de classification des décimales universelles, par exemple, ou de choses de ce genre-là. Et aujourd'hui, on est dans le monde des fichiers et c'est le monde de la redocumentarisation. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. un petit détour par une évolution sociologique qui va tout à fait être en écho avec ce qui a été dit tout à l'heure. Cette matrice, je ne vais pas vous la développer en détail, mais s'agit en fait de le résultat des travaux de la direction des études et de la prospective du ministère de la Culture sur l'ensemble des statistiques des pratiques culturelles. Et il s'agit de montrer quelle est la différence entre l'évolution des pratiques par génération ou l'évolution par âge. Tout le monde vieillit, malheureusement, et les pratiques culturelles peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de son propre âge. Mais chacun appartient aussi à une génération qui a une culture commune et une histoire commune, et ces pratiques peuvent être aussi communes à ces générations. Et qu'est-ce que dit la matrice ? Bon, très, très rapidement, si vous regardez à gauche, elle dit simplement que les lectures de livres baissent selon l'âge et baissent aussi selon les générations. Et que les lectures des journaux ne baissent pas selon l'âge, mais baissent selon les générations. Et tandis que si vous prenez complètement à droite, vous voyez que la télévision monte selon l'âge, c'est-à-dire plus on vieillit, plus on regarde la télévision, et elle monte aussi selon les générations, c'est-à-dire qu'une génération sur l'autre, plus on va regarder la télévision. J'en reste là, évidemment, il y a bien d'autres éléments. Simplement, il faut savoir que ces études-là, c'est avant l'Internet. C'est-à-dire que toutes les générations qui sont indiquées là et toutes les études, là, la sociologie, les enquêtes sociologiques qui ont été faites, étaient avant l'arrivée de l'Internet. Néanmoins, ça se fait pas non plus n'importe quand. Michel Malot a parlé de la décolonisation, ce qui est déjà un mouvement très important qui a marqué les générations. Mais il y a bien d'autres mouvements extrêmement importants sociologiques et économiques qui vont marquer cette époque, et notamment celui de l'augmentation du temps libre, qui est lié à des tas de facteurs sociologiques, hein, aussi bien l'augmentation du temps de vie que la baisse du temps de travail, que l'augmentation du temps de travail des femmes, etc. Et qu'est-ce que ça amène, ça ? Ça amène, en fait, des pratiques culturelles qui vont se modifier radicalement. Et là, vous avez une citation de Geoffrey de Mazodier, qui est un sociologue un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été un sociologue extrêmement important, qui a écrit un livre en 1962, La civilisation du loisir, qui a été vendu à 1 million d'exemplaires. Vous vous rendez compte, un livre de sociologue qui a été vendu à 1 million d'exemplaires. Ça ferait rêver tous les sociologues d'aujourd'hui qui vendent 200 ou 300 exemplaires au maximum. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Là, c'est pas sur son livre de 62, c'est un livre de 82. Il nous dit que, en fait, en réalité, tout cela transforme profondément l'attitude des personnes, et notamment la montée de ce qu'on appelle la montée du sujet, et ceci ébranle les institutions. Il fait référence aux années 70, vous savez, tout ce qu'il a pu se passer. Donc, on est dans ce monde-là, quand arrive l'Internet. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que l'Internet arrive complètement en phase. À un moment, c'est un média qui arrive, comme est arrivée la télévision à un autre moment, et c'est un média qui est arrivé en phase avec ce qu'attendait la société à ce moment-là. La petite courbe que vous avez là, c'est une courbe que vous pouvez faire pour tous les pays développés, celle-ci est sur le Québec, et c'est simplement la montée de la pratique d'Internet. La question, c'est vous, personnellement, depuis les 7 derniers jours, avez-vous utilisé Internet au moins une fois ? Et vous voyez qu'à la fin, et qui est encore l'année dernière, donc ça a dû encore augmenter, on en est à 75% de la population du Québec qui a utilisé dans la semaine au moins une fois Internet. Autrement dit, tout le monde, ou presque, ou sauf ceux qui ne veulent pas l'utiliser, mais Internet est devenu une pratique massive. Elle est devenue une pratique massive, ou il est devenu une pratique massive, pour toutes les générations, hein, et ça c'est un point important, on parle souvent de digital natives, on dit c'est juste les jeunes générations, et bien voilà les courbes selon les générations. Évidemment, les plus jeunes ont commencé plus haut et se retrouvent plus haut, les plus vieux ont commencé plus bas, mais l'autre aussi. Hein. Et évidemment, les générations basculant de l'une sur l'autre, toutes les générations sont maintenant concernées directement par l'Internet. Ce n'est pas un petit phénomène, c'est un phénomène de masse, un phénomène qui concerne absolument tout le monde, évidemment dans les pays développés. J'en arrive à ma redocumentarisation. Comment on peut interpréter ça? Moi, je vous donne une interprétation, vous en ferez ce que vous en penserez. À mon avis, c'est une interprétation qui permet de lire en partie au moins ce qui se passe. La documentarisation, en fait, c'est quoi? C'est le moment où Paul Otteley a proposé la classification décimale universelle. C'est le moment où Melville Dewey, de l'autre côté de l'Atlantique, a proposé la classification aussi pour les bibliothèques. C'est aussi un moment où l'esprit scientifique, au sens l'esprit positiviste, est dominant. C'est le moment où l'État-nation véritablement est fondé. C'est le moment où on va s'appuyer sur les votes, c'est le moment où on s'appuie sur l'industrie, au sens de l'industrie lourde, l'industrie des biens matériels, c'est le moment où on met en avant l'auteur, c'est le moment au niveau des documents où on va retrouver les revues du côté de la science, les lois du côté de l'État, les brevets du côté de l'industrie, les œuvres du côté des auteurs romantiques, si on peut dire, les médias en général, bien, l'imprimerie, etc. Tout cela, à partir du moment où ça devient massif, il faut pouvoir le classer et on a donc un phénomène de documentarisation qui se met en place et ce sont tous les métiers des bibliothèques qui vont exploser, mais pas que les métiers des bibliothèques, les métiers de la documentation aussi. Ce qu'on appelle documentation de ce côté-ci de l'Atlantique, ce qu'on appelle archivistique plutôt de l'autre côté de l'Atlantique ou ce qu'on va appeler aussi tous les métiers de l'administration. Et donc tous ces métiers-là vont exploser, vont en fait chercher à organiser ce monde documentaire qui part dans tous les sens, le monde de la paperasse, hein, entre autres. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est en train de changer. On va faire référence à un savoir limité parce qu'on va toujours pouvoir le contester. On va mettre en avant l'individu, on va mettre en avant les opinions, on va mettre en avant plutôt les services plutôt que l'industrie, la réflexivité, etc. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme document? On va retrouver plutôt des préprints que des revues, c'est-à-dire des documents scientifiques, mais qu'on pourra bouger, qu'on pourra changer, qu'on pourra contester. On va retrouver des formulaires, on va retrouver ce qu'on appelle les sources ouvertes, les wikis, Wikipédia, etc., les blogs, le web, vous connaissez tout ça par cœur. Et c'est ce que je vous propose d'appeler la redocumentarisation. Je dis la même chose, hein, documentarisation, où, notamment Melvin Dewey, Paul Otteley et bien d'autres, évidemment, classification, indexation, langage documentaire, thésaurus, redocumentarisation, Tim Berners-Lee, Ted Nelson, qui est l'inventeur de l'hyperdocumentation, les liens hypermédias, le web sémantique, les ontologies, voilà des éléments qui sont complètement en miroir avec les éléments qui étaient les éléments de la documentarisation d'autrefois et qui sont aujourd'hui ceux de la redocumentarisation, c'est-à-dire de réinventer les documents anciens en les basculant sur le web, mais aussi d'inventer de nouveaux documents qui vont être directement natifs web et les anciens eux-mêmes trouvant de nouvelles fonctionnalités par les fonctionnalités du numérique et du réseau. Tout cela touche absolument tous les secteurs du document et tous les secteurs qui s'appuient sur le document en partie ou en totalité, et ça touche évidemment les bibliothèques. Je vous ai mis là deux références très récentes, une qui est sortie de l'IFLA, qui est de Karen Calhoun, qui est quelqu'un de l'OCLC et qui simplement dit qu'on est dans un nouveau monde, hein, au travers des métadonnées. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est que la bibliothéconomie se réinvente complètement. Voilà ce qu'elle explique dans son article. Et puis, un colloque complet, hein, de l'ARL, Reinventing Science Librarianship. Bon, bah, le titre dit tout simplement ce que ça veut dire. Ceci ne concerne pas toutes les bibliothèques. Toutes les bibliothèques ne sont pas touchées de la même façon. Il ne s'agit pas des bibliothèques de lecture publique. Il s'agit là plutôt des bibliothèques universitaires et encore plus des bibliothèques de recherche, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici les grands centres de documentation. Si vous pensez juste une seconde aux bibliothèques, Que deviennent les collections quand on a Elsevier, Springer, Wiley, quand on a par ailleurs Google et Google Books, que deviennent les catalogues quand on a les systèmes de recherche de Google, que deviennent le flux documentaire lui-même est totalement inversé quand on pense aux archives ouvertes et quand on pense aux dépôts institutionnels. Autrefois, les bibliothèques universitaires allaient chercher des documents pour la communauté de l'université. Dans les archives ouvertes, c'est l'inverse. On va prendre les documents de l'université pour les proposer à l'extérieur. On a donc inversé complètement le champ documentaire, le flux documentaire pour les bibliothèques universitaires dans cette fonctionnalité-là. Autrement dit, on est en train de réinventer complètement la bibliothéconomie au travers de cette redocumentarisation. Et les défis sont là. Qu'est-ce que c'est que c'est ma dernière diapositive. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Cette photo, c'est un centre de données de Google. Il y en a une vingtaine dans le monde. Google dépense par an 2,4 milliards, billions, comme disent les Américains, with a B, milliards de dollars par an, juste pour ces centres de données. Il fait bien d'autres dépenses par ailleurs, mais juste pour les centres de données, il dépense 2,4 milliards de dollars. Il n'est plus possible d'imaginer que quiconque, sauf qui aurait la puissance, évidemment, de Google, pourrait être en compétition avec ce type d'entreprise sur sa puissance informatique. Et donc, ce sont vraiment des défis considérables qui sont lancés à tous les métiers, à toutes les fonctions documentaires. Alain Giffard parle, par exemple, de lecture industrielle. Eh bien, c'est bien ça. C'est cela que l'on a sous les yeux. Là, vous avez l'usine de lecture sous les yeux. Donc, on est bien dans un nouveau monde qui s'ouvre et je vais passer la parole à mes deux complices. Peut-être qu'on va commencer par Alain Pierrot qui va nous parler de la redocumentation du livre ou la numérisation du livre. Donc, je te laisse tout de suite
la parole.
Bonjour, bonsoir. Je vais essayer d'être assez bref et rapide avec quelques exemples. Le problème dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est de savoir ce qu'on fait quand on a une opération de numérisation de livres. Pour avoir longtemps vécu dans l'édition, et la numérisation de l'édition a accompagné d'assez près les bibliothèques. On s'est rencontré avec Yannick autour du poste de lecture informatisé lors de la création de la BNF. Là, j'ai regardé d'un œil, je dirais, assez inquiet toutes les opérations. Parce que pour en vivre plus ou moins bien et voir les enthousiasmes, j'ai envie de dire redocumentariser les livres, numériser. Mais pourquoi faire, bon Dieu, vous avez des choses qui, pendant quelques siècles, finalement, marchaient pas mal et dont on savait à peu près ce que c'était. Alors, attention aussi, l'expérience de l'édition m'a appris que ce que vous croyez savoir à propos du livre, eh bien, pour beaucoup, ce sont des illusions totales. La seule définition qui tienne pour moi après des années d'édition ou de bibliothéconomie, je suis fils de bibliothécaire aussi, là, c'est qu'un livre du temps de Martin, on savait à peu près ce que c'était. Un livre, ça se trouvait, pour le voler ou l'acheter chez un libraire, ça pouvait se voler également dans une bibliothèque, on pouvait aller les chercher sur les catalogues des bibliothèques. Et on savait aussi que ça se rangeait sur des étagères dans un meuble spécial qui s'appelait une bibliothèque, comme ça. Autrefois, d'ailleurs, on pouvait aller même plus loin, il y avait même un meuble pour lire les livres qui s'appelait un lutrin. Là. Alors, un livre, ça a aussi un sens pour un relieur qui sait ce que c'est que du codex. Quand on en arrivait à mes petits camarades de l'édition, ça devenait beaucoup plus flou. la meilleure définition pour l'industrie de l'édition ou l'industrie du livre, la chaîne du livre, c'est celle de Bercy. Un livre, c'est ce que je taxe selon les différentes règles de taxation du livre. À l'intérieur de l'édition, j'ai découvert, quand je suis rentré dans l'édition, que y avait des économies et des définitions du livre qui étaient extrêmement différentes. Ça allait du livre pour enfants, du livre illustré, en plastique, avec de la mousse dedans, qu'on met dans le bain des tout-petits, qu'on a intérêt à accompagner dans ce cas-là, si on ne veut pas les noyer trop tôt. Donc, qu'il y avait toute une série de choses à apprendre, en particulier dans la communauté des bibliothèques. C'est que, après quelques années d'édition, j'ai rencontré les problèmes d'informatisation du commerce du livre, où on a commencé à faire des bases de données pour la distribution, et on s'est ouvert sur le web. On commençait à parler de redocumentariser, par exemple, nos catalogues. À cette époque-là. Et là, on s'est aperçu que faire le commerce du livre, le livre marchand de Martin, on savait le faire dans les années 60-70. On commercialisait des objets précis. Puis il y a eu le web et les catalogues et l'arrivée dangereuse des marchands du livre sur le web. Et là, on s'est aperçu que notre conception même du livre ne marchait plus. Et qu'il fallait aller chercher du côté des bibliothèques, du côté de la FIAB ou de l'IFLA, la notion d'œuvre, parce que les gens, vous savez, les gens, c'est une sorte d'ennemi, mais en fait, c'est eux qui payent quand même les livres aux éditeurs ou aux libraires. Ils ne cherchent pas un Hachette ou le match code, comme on disait dans le jargon, qui prenait trois lettres de l'auteur. Là, donc, ce serait MAU. Et BIB pour bibliothèque numérique ou même DEF là, et on vous ressortait le numéro ISBN et on était capable de sortir de stock le livre pour l'envoyer là, mais ça marchait très bien avec des professionnels qui savaient chercher un livre, objet pour l'avoir et le vendre. Ça ne marchait pas pour le consommateur, le lecteur final qui lui cherchait peut-être donc bibliothèque numérique, le défi du droit d'auteur là. Donc, numériser, là, pourquoi faire? À l'époque, on le faisait. Mais on le faisait parce que la pression du marché faisait qu'on avait besoin de numériser nos catalogues pour vendre. Alors, maintenant, on peut essayer de passer un petit peu plus là au problème ou à l'exemple concret. Parlons, disons, de Gallica 2 et du problème de la numérisation. Numériser quel livre? Ça, c'est une bonne question. Ces projets-là sont partis largement avec... une idée, là, surtout politique, c'est numérisons, il en restera bien quelque chose, là. Et au départ, on est parti plutôt vers des numérisations de collections, disant, par exemple, j'ai des collections trop précieuses d'ouvrages pour les communiquer. Le réseau nous offre des possibilités. Prenons une collection spécifique. Par exemple, donc, dans les premières expériences de numérisation massive, il y a eu les collections de miniatures des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. C'est les premiers efforts sérieux. Un ensemble cohérent. Puis le web aidant et la Google arrivant, Amazon arrivant, s'est dit non, il faut des campagnes de numérisation de masse. Projet Jeannette, là. Et on change littéralement d'échelle, là. Donc, les premiers numérisations de collections, c'est à peu près ce que je veux faire. J'ai une collection cohérente, je veux la rendre accessible plus largement, et le numérique est une bonne solution. Numérisation de masse, c'est plutôt une décision politique. D'ailleurs, bon, je ne sais pas trop où ça va, mais il faut passer au numérique, il faut foncer, il faut faire de la numérisation en masse, là. Puis, il y a aussi des gens qui se disent, faut numériser parce qu'il y a des nouvelles choses, des nouveaux objets, ça, il y a des gens qui disent que c'est un livre électronique. Moi, je dis que c'est une liseuse parce que je pense qu'on a intérêt à distinguer le matériel du livre même. Je sais qu'au Canada, pour livre électronique, j'utilise moi plutôt pour le fichier du livre. Ça signifie aussi bien le matériel. Là, puis il y a des objets plus exotiques comme Ça, là, sur lequel, là, vous avez, c'est illisible de là où vous êtes, mais c'est parfaitement lisible quand je suis dans les transports en commun, un livre de François Bon sur, ce n'est pas un téléphone iPhone, mais c'est l'iPod Touch, même technique, même écran. Là, on lit sur des tas d'endroits différents. Donc, il y a numériser des livres pour les faire lire à des endroits différents. Hein. Là. Alors, qu'est-ce que ça induit, ça, du point de vue des technologies ? Si je quitte ce mode-là pour aller chercher, comment ça se passe ? Comment ça se fait ? Je pense que c'est peut-être pas mal. Déjà, un truc qui, je pense, vous devriez voir, c'est que quand on passe à ces opérations-là, on passe à des opérations industrielles, comme dit Alain Giffard, et le livre tel que vous le voyez dans le monde des bibliothèques ou de l'histoire du livre jusqu'à là, eh bien, il est considéré d'une manière complètement différente dans ce transfert vers les médias numériques. Pour donc Safig, qui est l'opérateur de l'opération de 3 fois 100 000 volumes de Gallica 2, hein, numérisation là, les livres, il les catégorise absolument pas comme vous pourriez les catégoriser. Pour lui, il va d'abord faire deux filières, la filière papier, la filière microforme. Puis il y a les reliés, hein, là, il y a les massicots, c'est-à-dire qu'on va faire de la numérisation destructive. Hein. Massicots, ça veut dire que les ouvrages en bas, on les prend, on arrache la reliure, on essaie de couper à peu près régulièrement de manière à avoir des marges correctes les feuilles, et ça va passer sur une filière donnée. Ça, c'est la récupération du papier. Puis, vous n'avez peut-être pas l'habitude de penser que ce sont des livres, mais si, pour la sélection, les films, microformes, c'est marche là, les fiches là-dedans. Ça, déjà, ça dit que l'objet livre, hein, c'est un document qui est considéré de manière tout à fait différemment, suivant que vous êtes bibliothécaire, lecteur ou industriel de la numérisation. Travailler sur le même objet, mais vous ne les classez pas de la même manière. Hein, là. Alors, si ça peut vous intéresser, voilà donc ce qu'on peut faire subir comme torture au livre. Ça, c'est une machine à tourner les pages. Hein, là, hein, d'un concurrent de la société qui m'emploie, mais c'est plus facile de voir là. Hein. Donc, on met le livre là-dedans, et il y a des systèmes de bras d'aspiration qui tournent là, et au-dessus, il y a deux appareils photo numériques qui essaient de faire des photos pas trop mauvaises de chaque page. Hein. Non, non. Bon, c'est des concurrents, ils sont très mauvais. Hein. Là. La société I2S travaille plutôt sur des scanners industriels, mais à manipulation manuelle pour des ouvrages précieux. Donc, vous avez deux types. Là, vous voyez à gauche une table où on peut compenser la hauteur de reliure. Au-dessus, il y a un bras qui va venir faire des photos, un éclairage contrôlé qui ne va pas abîmer les livres, et c'est comme ça qu'on va acquérir peu à peu les pages. Mais devant, il y a un opérateur qui a le métier passionnant de tourner les pages avec des gants dès que c'est précieux, d'essayer de ne pas en sauter et de faire les quelques réglages de temps en temps. Un autre modèle plus entrée de gamme, avec éventuellement une vitre pour mettre ça. Donc, on est dans de l'industriel, et là, on est à l'entrée de la chaîne, on va faire des photos des pages, là. On va obtenir des images de ces pages. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse sur ces images ? Bien, il faut les traiter. Bon, je saute les étapes, sans ça, je déborderai beaucoup trop de mon temps. Hein. J'ai encore 3 minutes, c'est tout. Là. On va passer à une étape qui vous intéresse, c'est de l'image, on va vouloir retrouver des textes. Hein. Alors, on a entendu parler tout à l'heure des immenses progrès de l'OCR, de la reconnaissance optique de caractère. Ben oui, ça fait de gros progrès, mais les ouvrages que nous leur donnons, Martin l'avait bien vu, hein, c'est pas des ouvrages unidimensionnels, c'est même pas des ouvrages en deux dimensions sur la mise en page de la double page, c'est des ouvrages qui sont complexes, parce que il y a des pages, il peut y avoir des paperolles, et il y a une épaisseur du livre. Hein. Je vous rappelle que c'est un objet à 3 dimensions, mais même avec le jeu des pages, des index, la manière de parcourir un livre, ça fait plus de 3 dimensions. Hein. Il va falloir que nos petits outils, ils fassent cela, et ça n'est pas si facile. Là, vous voyez par exemple un premier exemple de plante, c'était assez amusant de sortir cette image-là après l'exemple de la vie de Henri Brulard et du manuscrit avec les dessins. On a une page initiale où il y a de la composition hein, qui vient habiller une réserve sur laquelle on a une image de texte manuscrit. Et voilà ce que donne l'OCR le plus performant du marché à l'heure actuelle, avant correction. C'est-à-dire qu'il a reconnu en vert à peu près correctement les deux colonnes, hein, ça c'est préparamétré, il a reconnu à peu près les blocs de texte, et puis il a rencontré des lignes de manuscrits qu'il a essayé d'interpréter. Et les zones roses, le logiciel s'est dit, là j'ai des problèmes, hein, je crois que je reconnais des blocs pertinents, je vais essayer de te les interpréter, mais s'il te plaît, monsieur l'opérateur, fais quelque chose pour moi, c'est pour ça que c'est rose, hein, là. Là. Alors ça suscite une discussion que j'aimerais bien avoir avec Michel Mello. Je pense qu'il faut distinguer ce qui est bien nommé par l'anglais de la reconnaissance optique de caractère, qui est de la reconnaissance qui est très loin du phénomène de la lecture, hein, parce que je pense que la lecture qui implique en fait qu'on ait un document qui ait un sens et un esprit humain qui comprend le sens, c'est un phénomène extrêmement complexe, très différent de la reconnaissance d'une image, de l'identification d'une image. Non. Alors, comme je suis assez long, j'échappe un peu, je vous en dispense de quelques autres. J'ai des présentations sur mon blog et mon site, où vous pouvez voir l'intégralité de cette présentation qui détaille toutes les opérations de SAFIX. C'est assez bien fait par les gens qui font cela. Ça vaut la peine, si vous avez des curiosités sur ces opérations, d'aller le voir. Mais je reviens là, en disant que, donc, une fois qu'on est parti là-dessus, numériser pour quoi faire ? Numériser les livres, vous pouvez les numériser pour les préserver. Dans ce cas-là, vous allez chercher des images de la plus haute définition et vous allez chercher à faire des images hein, du texte là. Mais en tant que bibliothécaire, archiviste, les nouveaux documents que vous faites, ils n'ont pas de sens si c'est uniquement pour les conserver dans un coin. Ça coûte cher de garder du document numérique et ce n'est pas si pérenne que du papier, hein, quand le papier est de bonne qualité, pas acidifiant. Là, il faut les communiquer. Et pour ça, c'est que vos objets livres, il va falloir trouver des nouveaux moyens pour les communiquer. Il faut que quelqu'un les trouve et les identifie. Il faut donc des métadonnées. Hein. Et ces métadonnées, il va falloir qu'elles reprennent tout ce que vous avez su faire. Hein. La bibliographie matérielle devrait bien être popularisée auprès des informaticiens et des Google de ce monde, parce qu'elle est une des clés d'accès. Hein. J'ai beaucoup admiré hier aussi les modes d'accès aux ouvrages anciens du CERL. Hein, hein. Là, trouver, identifier, ça implique de mettre les bonnes métadonnées autour de ça. Quand vous avez les images que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, c'est des bêtes images, hein, avec un numéro d'ordre, une date de prise de vue, mais rien de plus. Derrière, il va falloir les afficher et les lire. Les afficher sur quoi ? Sur le timbre poste de mon écran, là, aussi bien que sur du papier électronique, aussi bien que sur mon portable, hein, qui a un écran plutôt 16/9, ou sur un vidéoprojecteur. Ça va impliquer qu'on ait des nouvelles industries, hein, de la typographie numérique, des nouveaux concepts de mise en page à l'écran et de mise en page dynamique. Le métier de designer ou de maquettiste aujourd'hui doit être bouleversé parce qu'il va falloir laisser des degrés de liberté à l'usager, mais en même temps lui indiquer les contraintes. Hein. Les empans de lecture et là, si vous avez des légendes du voix, genre le troisième personnage à droite sur l'image, vous n'avez peut-être pas intérêt à faire ça sur deux écrans successifs. Hein. Si vous voulez que la lecture passe là. Afficher et lire est un nouveau problème. Et puis, nouveau problème, explorer le contenu. Pas question de se contenter des images. Maintenant, on attend de la recherche intelligente, des index dynamiques. Là. Donc, c'est là que, derrière l'OCR, il faut faire des index et des index pertinents. Hein. Non. Explorer la structure aussi. Hein. C'est, je pense, très intéressant de voir les mises en page complexes que on nous présentait tout à l'heure avec les exemples de zoologie, botanique, là. Et enfin, aussi offrir des possibilités de réemploi des données, c'est-à-dire que la plupart de nos lecteurs, de vos lecteurs, quand ils viennent lire, hein, c'est parce qu'ils vont faire quelque chose du document, pas simplement une lecture plaisir et passive, pas seulement l'admiration de l'incunable dans la vitrine derrière 18 alarmes et avec une barrière devant, c'est qu'ils vont vouloir réemployer, copier, coller, là, sous quelle forme? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir? L'image du texte? L'image du texte plus un texte manipulable? L'image du filigrane de la page du papier de Tycho Brahe, là, tout ça, ce sont des questions qui, dans les programmes de numérisation, doivent venir, et ne jamais oublier que dès qu'on change de média et dès qu'on change de lecteur ou de public, pour ma part, je pense qu'on a un nouveau document, c'est-à-dire une nouvelle relation entre un créateur, un texte complexe, un support matériel, parce que pour moi, il n'y a pas de contenu sans contenant. Hein. Si j'essaie de vous envoyer du contenu sans le contenant ici, ça ne va pas le faire. Hein. Ensuite, tout texte, hein, tout document est proposé à un lectorat, et un lectorat qui va s'en emparer, se l'approprier pour en faire autre chose. Bien, tout ça, toutes ces tâches-là induisent que les processus industriels actuellement de numérisation de livres sont des processus complexes, longs, et beaucoup plus coûteux qu'on ne le pense, parce qu'on ne sait pas très bien où l'on va, et on est obligé de prévoir beaucoup plus de cas de figure que prévu. Hein. Là.
Donc, merci Alain. Donc là, on était vraiment dans la redocumentarisation la plus classique, hein, la plus traditionnelle, puisqu'on prend un livre qui est le premier objet documentaire fondamental, que l'on bascule avec toutes les difficultés que l'on a repérées, que l'on a indiquées, sous un format numérique. Maintenant, on va prendre les choses d'une autre façon. On va partir non plus du document, mais de la science. Mais la science est basée sur le document, et en particulier les sciences humaines et sociales. Et donc, je vais passer la parole à Yannick Ménien, qui va nous parler du travail qu'il fait donc au travers du très grand équipement à Denis.
Oui, bonsoir. D'abord, tous mes remerciements aux organisateurs, Mme Bertrand, M. Vary et à mon collègue Jean-Michel Salin de m'avoir invité pour cette table ronde. Effectivement, lorsqu'il m'a proposé ce thème de redocumentarisation sur lequel on avait été amené à travailler ensemble pendant le RTP Doc il y a quelques années, entre 2000, 2002, choses comme ça, il me semble. J'ai essayé de m'interroger sur ce que ça pouvait signifier sur les pratiques que j'avais actuellement. Alors, je suis donc au CNRS depuis presque 2 ans, à peine, et pour m'occuper de ce qu'on appelle un très grand équipement, à Denis signifiant accès unifié aux données et documents numériques en SHS. Et je vais vous en dire 2 mots, mais surtout pour m'interroger sur cette question. Dans la pratique des chercheurs, des laboratoires avec qui nous sommes amenés à travailler, quelle place le numérique prend, et n'assiste-t-on pas à une véritable révolution qui peut-être est déjà très engagée dans d'autres domaines scientifiques, les sciences dures comme on dit, mais où les sciences humaines, parce que c'est aussi leur préoccupation, je dirais, presque éthique, devrait s'interroger beaucoup plus. Et peut-être que, par provocation, plus qu'une redocumentarisation, devrait se demander si d'abord le digital, le numérique, comme on dit, c'est pas une dédocumentarisation d'abord. Et donc le titre de, si j'avais fait un exposé construit, ce que je vais peut-être pas faire, puisqu'il va être très bref, ce serait de se demander des données numériques qui sont quand même des données ou des sources qui sont quand même la base du travail du chercheur jusqu'au document, qu'est-ce que change le numérique? Des données au document, qu'est-ce que change le numérique? Et pourquoi maintenant assiste-t-on, c'est presque une mode, mais je pense que c'est bien autre chose, à la nécessité d'infrastructures numériques qui sont proposées pour assister, pour accompagner, pour soutenir, j'espère pour ne pas remplacer, le travail des chercheurs, des laboratoires. Donc, effectivement, par rapport à ce que vous a dit mon collègue avant, c'est pas la question de la numérisation des documents qui importe ici, c'est presque de s'interroger. Alors, j'imagine bien que les chercheurs en SHS continuent à travailler avec des livres, avec des sources, avec des manuscrits, avec des documents d'archives, avec des photos, avec de l'argentique, avec des films, avec des vieux formats de tous ordres, avec des objets, avec des collections d'ethnologues, avec avec des carnets de ces ethnologues. L'autre jour, j'étais au Quai Branly, une petite parenthèse, et quelqu'un, un conservateur, ouvrait devant moi des valises d'un collègue, hein, spécialiste de l'Inde, valise qu'il avait dû déposer il y a fort longtemps, et c'était émouvant de voir ce que c'était que les sources, hein, d'un chercheur. C'était aussi bien des fiches d'hôtel, des prospectus de voyage que des vraies notes. Bon, alors, bref, le chercheur travaille à partir de sources, à partir de données, et je prends presque le cas extrême, le chercheur ne travaille plus qu'avec des sources numériques. Imaginez un archéologue qui est sur une fouille, qui travaille sur ses fouilles en prenant les milliers de photos digitales, bien sûr, qu'il veut, en archivant toutes ces photos sur les bases de données qu'il souhaite, en documentant cela, bien sûr, tout de suite sur son ordinateur, en géolocalisant chacune des photos presque au millimètre près, je sais bien que ce n'est pas encore le cas, de chaque tesson ou de chaque élément de sa fouille, travaillant sur ce matériau, ces sources qui seraient en fait presque une sorte de substitut du monde réel sur lequel il travaille. Vous pouvez faire la même chose avec des gens qui travaillent en économie, en sociologie, sur des enquêtes qui sont des grandes séries complètement numérisées, sur des données quantitatives ou même des données qualitatives. Vous pouvez faire la même chose pour des gens qui travaillent dans le géoréférencement de données sur un territoire. Bref, les données primaires sont en train de devenir des données externes numériques. Et j'ai essayé de m'interroger sur ce que ça va signifier, parce que en fait, dans le cycle de production de connaissances ou dans le cycle d'information scientifique et technique qui est associé, c'est l'ensemble de ce cycle et chacune de ces étapes qui devient numérique. C'est non seulement donc la prise en compte des sources, qu'elles soient images, qu'elles soient textuelles par la saisie directe, qu'elles soient graphiques, qu'elles soient vectorielles, qu'elles soient statistiques, qu'elles soient qui sont d'emblée des données numériques, mais c'est bien sûr leur traitement. Le fait de les rentrer dans des modèles, dans des simulations, dans des hypothèses qui sont des calculs, hein, un computer sert d'abord à calculer les données, c'est ensuite l'échange avec des collègues, hein, donc la mise en commun par un travail collaboratif de ces données, hein, et la mise en place de bases de données relationnelles, c'est la documentation au sens effectivement documentaire de ces données par l'ensemble des métadonnées qu'il faut associer, descriptives, administratives, gestionnaires, la gestion des droits, tout ça ce sont des indications purement numériques que vous donner, et jusqu'à la publication, hein, d'abord en préprint, puis ensuite en dépôt d'archives ouvertes, puis ensuite en publication qui est soumise à peer review, qui est soumise à comité de lecture, dans des revues qui elles-mêmes sont maintenant presque toujours numérique, en tout cas c'est le cas des sciences dures, et où le workflow, comme on dit, de l'ensemble de la soumission de votre manuscrit est lui-même un process totalement numérisé, en tout cas assisté de façon numérique, hein, en termes d'opérations de communication entre les relecteurs. Je ne parle pas des outils bibliométriques d'évaluation qui eux-mêmes sont des outils complètement numérisés, bien sûr à partir de critères qui sont fondés, codés ou contestables, hein, que ce soit les Citation Index, que ce soit par Scopus, que ce soit par LISI ou que ce soit par d'autres systèmes, les articles sont d'emblée, je dirais, réanalysés dans leurs éléments bibliographiques afin de savoir quel rôle ils ont, qui cite qui et qui est cité par qui. Bref, depuis la source des données jusqu'à la fin de la publication, L'ensemble, on peut dire que l'ensemble du travail est fait, je veux dire, en champ dynamique, hein, de façon dynamique, avec les risques de déconnexion du monde réel que cela peut supposer. Ben, j'ai essayé de ce point de vue-là, je pense que on peut risquer cette hypothèse que si on se limitait à ce constat, c'est plus à une dédocumentarisation qu'on assiste, parce que tout ceci, en un sens, à chaque étape, à chaque chaînon, part dans tous les sens. Hein, les formats sont-ils communicables, interopérables, les choses sont-elles mutualisées, telle opération est-elle sur tel réseau mais pas tel autre. Ce foisonnement numérique dont a parlé Jean-Michel Salin tout à l'heure, hein, cette croissance exponentielle et aussi une explosion exponentielle, hein, des données. Et la science, bien sûr, n'a de cesse que d'essayer de alors, dans ce sens-là, de redocumentariser ces données, ces process, afin de les rendre, je dirais, lisibles par des communautés et au profit de communautés scientifiques. Hein. Parce qu'au bout du compte, c'est les communautés qui, se formant à travers ce process, reconnaissent ou non les limites, hein, de ce travail et reconnaissent au sens d'autorité, de validation, ce travail. Donc, ma première intervention était de me demander si effectivement, tout en radicalisant un peu les choses, c'était pas l'ensemble du process de production des connaissances qui aboutissent effectivement à des textes, hein, avec des auteurs validés, à des articles, à des publications, à des monographies, à des colloques, à des conférences, à des communications, tout ce qui fait depuis le XVIIe siècle, tout ce qui fait la valeur du travail scientifique et de l'élaboration des communautés. Tout cela est d'ores et déjà, ou va être sous peu, totalement numérique, et je crois que c'est devant ces enjeux que les sciences humaines et sociales, dans leur diversité, leur hétérogénéité, se confrontaient à la nécessité de se structurer, ou en tout cas de se préoccuper de ce que peuvent être les infrastructures numériques qui peuvent les accompagner. Alors, deux mots qui reviennent à ce que je fais. Ce très grand équipement à Denis a pour but, effectivement, d'apporter sur chacun des chaînons dont je viens de parler les éléments d'interopérabilité, les éléments de mutualisation qui permettent justement aux communautés de faire converger leurs efforts au lieu de les disperser. Hein, parce que je pense que le numérique, dans un premier temps, est une fantastique force de dispersion. Hein, voilà. Alors, je vais vous prendre un exemple. La question de l'archivage du numérique en lui-même est une question cruciale. Je ne parle pas de l'archivage par le numérique des autres données, papier, manuscrits et autres, hein, dont a parlé en termes de but de conservation mon collègue tout à l'heure. L'archivage des données numériques, elle est un enjeu. La conservation des données de la recherche en tant qu'elles sont numérisées, et c'est sur une très brève histoire, hein, c'est à peine 20 ans, à peine plus, enfin, ou très souvent moins, on sait très bien que des formats ne sont plus praticables, des logiciels ne sont plus développés, des matériels n'existent plus, et l'ensemble donc de ce qui fait la dimension d'un document numérique n'est plus accessible. Hein. Donc la pérennité. Alors même que les contenus peuvent être extrêmement importants. Hein. Il y a des tas de données des archives de la recherche qui sont d'ores et déjà, dans leur dimension numérique, sont plus accessibles. Et heureusement, quelquefois, il faut revenir aux originaux, aux rapports, qui ont accompagné, aux publications qui ont accompagné ce travail dans le numérique. Donc, je vous signale simplement un exemple pour vous donner la dimension de cette nécessité, cette impérieuse nécessité de s'appuyer sur des infrastructures numériques. Le TGA de Nice est en train d'appuyer des opérations d'archivage pérennes, comme l'on dit, avec sur un premier corpus qui est le corpus des données orales. C'est les enregistrements de scientifiques, linguistes ou psychologues qui ont formé des corpus oraux par des enregistrements, par la description et la documentation de ces enregistrements, de langue, de process de parole, hein, et phonétique ou pour des raisons linguistiques. Et tout ça est en risque de ne plus être archivé, bien archivé. Donc ce premier loin, je dirais, de quelques téraoctets de corpus oraux est en train d'être archivé à l'INDP3, donc juste à côté d'ici, au centre de calcul. La méthodologie d'archivage pérenne est assurée par le CINES, hein, à Montpellier. Là, on voit que ce triangle entre les gens qui disposent des données orales, il y a certaines choses qui sont faites avec le ministère de la Culture, il y a d'autres choses qui sont des corpus plus du CNRS. C'est dans ce circuit entre le CINES, le centre de calcul de l'INP3 et ses responsables des données orales que est en train de s'affirmer une méthodologie de conservation à long terme, donc à très long terme, c'est-à-dire où le contenu sera conservé quelle que soit l'évolution des formats, des logiciels, des matériels et des outils, hein, décrivant ces corpus. Voilà, donc c'est un des exemples que je pourrais donner. Je crois qu'il y a, en réponse à la dédocumentarisation que je signalais liée au numérique, la nécessité de mettre en commun sur des infrastructures ces efforts de mutualisation et d'interopérabilité. Alors, juste pour conclure, c'est un mouvement qui, au niveau international, est déjà très avancé. Hein. En France, il y a sur les sciences humaines et sociales, il y a une conscience qui est tardé. Le TGA de Nice était jusqu'à maintenant le seul grand équipement des sciences humaines et sociales. Nos collègues en Allemagne, en Angleterre, ont déjà développé ces cyber-infrastructures, comme on dit, depuis un certain temps. Nous travaillons avec le Max Planck sur un certain nombre de projets communs, par exemple, ou avec le GISC en Grande-Bretagne. Et le TGA de Nice essaie de collaborer au sein d'un programme européen d'ARIA sur les grandes infrastructures numériques. Voilà, je pense que c'est suffisant peut-être pour provoquer vos questions pour l'instant. Merci.
Merci beaucoup. J'ajoute juste qu'aux États-Unis aussi, hein, la NSF, donc la National Science Foundation, finance des énormes projets de cyberinfrastructure dans ce sens. Donc on a eu deux exemples, hein, de redocumentarisation. Il y en a évidemment des milliers d'autres, mais ceux-là, je pense, sont très significatifs. Maintenant, la parole peut-être est à la salle, si vous avez quelques questions avant de terminer cette journée.